Hello, 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 bonjour et bienvenue sur le podcast Ivoire Talent, votre rendez-vous hebdomadaire d'informations, de partage d'expériences sur les sujets brûlants de la vie active et professionnelle. Vous l'avez remarqué, je suis Marc Landry et j'anime ce podcast avec mon colistier Franck. Comment tu vas, Franck?
Hello Landry, hello à tous nos auditeurs. Je me porte excellemment bien Landry, merci beaucoup. Et je suis
Super.
ravi de te retrouver aujourd'hui après quand même quelques mois où nous
Exactement.
n'avons pas enregistré le podcast.
Exactement, exactement. Plaisir partagé, mon frère. Donc, Franck, aujourd'hui, nous avons une invitée spéciale. Je te laisse le soin de nous l'introduire.
Avec plaisir Landry. Alors ce que je peux dire c'est que pour ce nouveau podcast Ivoire Talent, nous avons déniché une perle qui a accepté de faire cette conversation avec nous sur un sujet qui est très important. Le sujet concerne tout ce qui est orientation, orientation académique et professionnelle, réorientation, choix de filière, de carrière, de métier. Et pour parler de ce sujet, nous recevons aujourd'hui une illustre invitée qui est diplômée du lycée Sainte-Marie d'Abidjan-Cocody et qui, après avoir fait de brillantes études en école de commerce, a eu cette chance-là ou bien ce penchant vers les ressources humaines. Elle est allée plus loin en mettant en place une plateforme pour aider les lycéens, les étudiants à s'orienter et avoir une carrière professionnelle réussie. Donc nous avons avec nous aujourd'hui Ina Ouattara, la fondatrice d'Edukia. Edukia qui est une plateforme qui a été lancée depuis l'année passée, depuis juin 2020, et qui distille beaucoup d'informations sur l'orientation professionnelle, les choix de carrière, et aussi qui aide les étudiants, les professionnels, les diplômés à trouver leur premier emploi. Et c'est avec plaisir que nous accueillons Ina Ouattara. Hello Ina, bienvenue sur le podcast Ivoire Talent.
Hello, merci beaucoup pour votre accueil, c'est très sympa.
Super, Ina, nous sommes ravis de t'avoir ici. Mais bon, moi je veux rapidement rentrer dans le vif du sujet. Hein. Ina, on entend beaucoup parler de système LMD. J'espère pouvoir avoir beaucoup plus d'informations là-dessus. Quels sont les changements majeurs apportés par ce système et quel est le véritable gain pour les étudiants?
Effectivement, en fait, le système LMD pour licence, master, doctorat, en fait, ça correspond à trois cycles différents d'années d'études et aussi de points. Donc, en fait, l'objectif, justement, c'était à la base d'harmoniser un peu les normes des études en termes de contenu, de parcours. Donc, avant, on avait un paysage assez, on va dire, disparate pour les études. D'un pays à l'autre, ça variait. Et l'idée avec le système LMD, c'est qu'au niveau francophone notamment, on soit sur quelque chose qui soit beaucoup plus lisible et qui soit beaucoup plus clair, non seulement pour les étudiants, mais aussi pour les écoles et pour les employeurs. Après, un deuxième objectif, c'est plutôt de créer des passerelles. Donc, ça veut dire que si par exemple j'ai fait une licence économie-gestion, je peux poursuivre en master contrôle, comptabilité, audit. Voilà, donc c'est pas directement, on va dire, on a étudié certaines matières en économie-gestion, mais on décide de se spécialiser en master comptabilité, contrôle, audit. Ou par exemple, donc une passerelle un peu plus différente, on va dire, je fais une licence en langue, je peux poursuivre en master management hôtelier, c'est tout à fait normal. Donc en fait, là, vous voyez bien qu'il y a le côté un peu échange entre les disciplines proches qui est possible. Donc voilà, grosso modo, un peu les avantages qui sont permis par le système LMD.
Ok, c'est intéressant, très intéressant et très clair aussi. Merci pour ta réponse. Il y a une question que nous avons reçue, parce que lorsque nous préparions ce podcast, nous avons ouvert une collecte pour recueillir les questions de nos auditeurs. Et il y a un auditeur comme ça qui nous demandait, en fait, c'est quelqu'un qui est polyvalent, quelqu'un qui est polyvalent, qui a de bonnes notes dans toutes les matières. Et il se posait la question de savoir, étant donné qu'il a de bonnes notes partout, comment bien choisir sa filière? S'il s'appuie ses notes en classe, c'est un peu difficile pour lui parce que il est relativement bon partout. Donc, comment pour lui, qui est polyvalent, et peut-être aussi pour d'autres personnes qui ne le sont pas forcément, mais comment bien choisir sa filière? Est-ce qu'il faut s'appuyer sur ses notes en classe ou bien est-ce qu'il faut prendre un autre critère?
Alors, effectivement, c'est une bonne question parce que quand on est au lycée, j'avoue, le système veut que c'est sur les notes finalement qu'on adosse pas mal son choix d'études. On se dit, ah, je suis bien en physique ou en chimie, pourquoi pas poursuivre dans un métier qui met en valeur ses forces, on va dire. Si c'est dans les matières littéraires, on se dit, ah, bah, tiens, je vais pousser peut-être vers du droit ou des lettres ou des langues. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que effectivement, il est polyvalent, donc il a des bonnes notes partout. Bah, ça, c'est super. Donc déjà, félicitations. Après, dans l'idée, on ne se fie pas qu'aux notes pour choisir son orientation. Donc, ce qu'il faut prendre en compte aussi, et justement, c'est ce que Edukia essaie de pousser, c'est le côté les traits de personnalité. En fait, il faut se connaître. Voilà. Parce que les notes, c'est un système d'évaluation, on va dire, externe à nous. Enfin, c'est un système qui est établi depuis très longtemps et qui n'a pas forcément été mis à jour, on va dire, au fur et à mesure de l'évolution des générations. Donc, l'idée, c'est qu'on puisse revenir à soi et puis connaître ses traits de personnalité. Donc, sur Edukia, vous avez des ressources pour vous aider à faire ça. Les centres d'intérêt qu'on a aussi, parce qu'en dehors de vos notes, vous êtes un individu qui a des particularités, des préférences. Peut-être que vous passez des heures, je dis un exemple, à jouer aux jeux vidéo, ou que vous passez des heures à essayer de coudre un sac ou un vêtement en particulier. Donc, vous mettez en avant certaines aptitudes. Et ces aptitudes-là, il faut en prendre note. Après, on va aussi se pencher sur tout ce qui est rêve, c'est-à-dire moi, à quoi j'aspire. Donc, ce n'est pas que les notes. C'est peut-être que je me vois bien dans les airs en tant que pilote ou peut-être que je me vois bien en train d'essayer de trouver le prochain vaccin pour telle ou telle maladie. Donc, il y a les rêves et il y a... Alors, c'est là où on revient à la réalité, on va dire. C'est le côté, les possibilités qui sont offertes par le système scolaire et le marché du travail. Parce que c'est bien beau de faire un choix, mais il faut aussi que ça puisse nous mener vers on va dire quelque chose de concret qui va nous permettre ben, de bien vivre, ou en tout cas de vivre dans le confort auquel, en général, on aspire. Donc, au-delà, si je reviens à la question, au-delà des notes, il faut, comme j'ai dit, s'attacher à savoir, ou en tout cas à connaître ses traits de personnalité, ses centres d'intérêt, ses rêves, ce dans quoi on a des compétences, des aptitudes, mais aussi le faire coller aux besoins du marché du travail. Et c'est là où le travail justement d'orientation est, j'avoue, complexe, parce qu'on met en cohérence en fait plusieurs paramètres. Et c'est aussi pour ça qu'on peut se faire aider par quelqu'un qui connaît les questions pertinentes à poser pour pouvoir faire ce choix, en tout cas en toute sérénité.
Très clair.
Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Après, si je rebondis quand même sur le côté polyvalent, en fait, on est polyvalent, j'entends, parce que moi-même, je le suis, et je l'ai été, je le serai toujours, je pense. Dans l'idée, on arrive quand même, dans cette polyvalence, à déterminer, donc après cette réflexion-là, 3-4 domaines, plus ou moins, on va dire, ce serait bien d'avoir 3-4 domaines qui nous intéressent vraiment. En fait, quand je dis qui intéresse vraiment, c'est-à-dire que j'ai envie de continuer à apprendre dans ces domaines. C'est-à-dire que je ne me fatigue pas à l'idée de dire « Ah, je vais lire tel livre sur le sujet, je vais regarder tel documentaire, je vais... » C'est des choses où vous avez constamment envie d'apprendre. Donc ça aussi, ça peut être des bons indices. Parce que je peux être doué en physique, mais je n'ai pas envie d'aller lire des livres qui parlent de physique. Par contre, peut-être que... le cours de biologie sur les plantes, peut-être que bah, moi, chez moi, je collectionne des plantes ou je fais des choses qui sont en rapport avec ça. Ça m'intéresse, en fait, les documentaires sur... voilà. Donc, c'est vraiment s'écouter, se questionner, voilà, pour arriver, en tout cas, à voir ces domaines qui sont un peu saillants et qui reviennent souvent et dans lesquels on a toujours envie de continuer d'apprendre. Et puis, bah, s'engager dedans, quoi. Voilà.
OK. Voilà.
En gros, c'est beaucoup de curiosité, c'est ça?
Ah oui, l'orientation. J'ai envie de dire, moi, j'aime bien l'image d'un détective, en fait. Parce que c'est comme si j'étais le détective Sherlock Holmes ou qui vous voulez, de moi-même. Voilà. Donc, je m'observe. J'observe autour de moi qu'est-ce qui va susciter mon intérêt, qu'est-ce que j'ai envie de faire, dans quoi j'ai envie d'investir mon temps. Et puis, tout ça, je le mets ensemble. Et c'est aussi pour ça que c'est bien de prendre des notes, en tout cas d'avoir un document ou un carnet ou n'importe quoi sur lequel on va noter. Tout ce qui nous vient, d'où le fait aussi qu'il soit important que quand même si on est polyvalent de se prendre de s'y prendre en avance. C'est pas quand j'ai le bac que je me demande, c'est avant, donc seconde, première, terminale, etc. Et même avant si on veut, c'est là que je dois commencer à m'observer pour voir qu'est-ce que je vais choisir après le bac. Voilà,
très pertinent.
C'est très clair. Ina, moi, j'ai une question pour toi. Je vais essayer de prendre un cas pratique. Bon, il y a un auditeur qui s'appelle Kevin. Kevin pose la question suivante. Quelles sont les possibilités d'intégrer le monde professionnel juste après le BPC ou le bac? Nous savons tous qu'il y a des contraintes diverses qui peuvent arriver. Tu peux avoir des difficultés et tout. Donc, selon toi, avec Eduquia, est-ce qu'il y a des possibilités actuellement de pouvoir avoir du boulot ou bien embrasser une carrière professionnelle après le BPC ou le bac?
Tout à fait. Alors, oui, il y en a pour répondre à la question. Il y a même il y a des filières qui sont faites pour ça spécifiquement. Mais là, du coup, elles vont relever de tout ce qui est enseignement professionnel et technique. Donc, effectivement, là, de ce que je comprends, on n'est pas dans tout ce qui est bac général et bac technologique, donc au sens, on dit, mais que la plupart des gens font. Mais il faut savoir que beaucoup de gens aussi, et parce qu'il y a du boulot là-dedans, ça, il faut vraiment en être conscient, vont s'orienter vers tout ce qui est CAP, donc certificat d'aptitude professionnelle, qui est, alors c'est un peu, on va dire, des équivalents un peu bac, voilà, mais qui sont appliqués à un métier. On a tout ce qui est BEP, donc brevet d'études professionnelles, brevet de technicien, ça existe, et le brevet, par exemple, professionnel. Donc tous ces brevets et certificats, ce sont des diplômes que l'on va faire dans des disciplines spécifiques. Donc, quand je dis discipline spécifique, là, il faut savoir que dans l'enseignement professionnel et technique, alors ça se fait, peut-être que je ne l'ai pas dit, ça se fait après le BEPC, c'est l'exemple, enfin c'est ce que tu m'as demandé, mais aussi après le bac, voilà. Donc, si on n'a pas forcément ni la possibilité ni les moyens d'aller extrêmement dans des études qui durent très très longtemps, on peut s'orienter vers ça. Ah oui, j'ai oublié de citer aussi le BTS. Parce que le BTS, c'est en 2 ans après le bac. Maintenant, si je reviens aux différents certificats et brevets que j'ai cités, donc qui interviennent après le BEPC ou après le bac, on va se retrouver dans le secteur secondaire avec des spécialités comme la menuiserie ou le bois, la mécanique, l'électricité ou l'électrotechnique, tout ce qui a trait à l'art, la beauté, la mode. Donc, dedans, on a coiffure, on a aussi la céramique, enfin voilà, des choses assez spécifiques de la mode. Mais aussi, on a le bâtiment et les travaux publics. Donc, bâtiment, gros œuvres, maçonnerie, plomberie, peinture, voilà. Et donc, le deuxième axe, c'est le secteur tertiaire. Donc, j'ai dit secteur secondaire, maintenant, c'est le secteur tertiaire. Donc, on est plus dans les services, quelque part. Donc là, on va avoir tout ce qui est assistant de direction, comptabilité qu'on peut faire là, secrétariat. La gestion commerciale aussi qui est ouverte comme spécialité, la gestion de production, la logistique, tout ce qui est sanitaire et social. Et je dirais peut-être en dernier, le tourisme et l'hôtellerie. Mais du coup, ça, c'est auprès de lycées professionnels. En Côte d'Ivoire, en tout cas, il y en a, notamment un à Grand-Bassam, qui permettent de se spécialiser dans les différentes communes, pardon, d'Abidjan, ça, d'expérience, je le sais, et qui vont permettre de se spécialiser sur ces différents métiers après le BPCE ou après le bac. Voilà.
Ok, ouais. Effectivement, on a l'habitude d'être un peu focalisé sur les filières générales, mais il y a aussi ces filières type professionnel là qui existent. En parlant de filières, on a aussi des filières universitaires qui, j'ai envie de dire, sont stigmatisées. On a souvent entendu des personnalités se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on fait avec une licence, excusez-moi, mais en sociologie, par exemple. Et donc, il y a un auditeur qui nous demande quels sont les débouchés? C'est-à-dire, contrairement à ce qu'on dit, n'existe-t-il pas des débouchés pour ces filières-là, des métiers ou bien des voies d'insertion professionnelle pour ceux qui ont fait ces filières qui sont si souvent stigmatisées, comme je peux citer par exemple la sociologie, la criminologie. Donc la question, c'est un peu ça. Quels sont les débouchés pour les personnes qui abordent ces filières-là? Parce qu'elles sont ouvertes et existent encore à l'université.
C'est là où le système LMD va justement se poser la question des gains, peut fortement aider. Parce que j'avoue, dans un pays, bon, c'est bien dommage, hein, mais on n'a pas besoin forcément de 70 000 sociologues ou philosophes, alors que, bon, j'avoue, l'université continue de les former. Donc, clairement, là, comme vous avez dit, on a une sorte de décalage en fait entre ce qui est réel sur le marché du travail et puis la formation qu'on promeut, on va dire, auprès des jeunes. Mais dans ce cas-là, alors, comme j'ai dit, le système LMD aide parce qu'il va permettre quelque part, oui, de faire une réorientation quand on se rend compte qu'il n'y a pas assez de place pour un sociologue ou un philosophe dans tout ce qui est recherche, parce qu'en général, recherche, enseignement. C'est ce qu'on a l'habitude d'entendre, en tout cas pour les fonctions, pardon, pour les spécialités dans les sciences humaines et sociales. Donc, c'est, comme j'ai dit, professeur, enseignant, professeur ou dans la recherche. Maintenant, s'il n'y a pas de place, effectivement, là, vous êtes obligé de vous reconvertir vers autre chose. Donc, autre chose, ça peut être, vous allez rajouter un master 1 ou 2. Je dis, par exemple, dans les ressources humaines, si vous avez fait psychologie avant, ce n'est pas déconnant. Au contraire, ça se comprend parce que vous êtes au contact des salariés ou des collaborateurs. Et donc, il y a le côté psychologique qui va être important dans les ressources humaines. Si vous avez fait une autre discipline, ça peut aussi s'appliquer dans les services sociaux. Donc, si j'ai fait sociologie, je peux regarder les services sociaux. Je peux regarder aussi le secteur de l'éducation. Pourquoi pas, je peux bifurquer même vers tout ce qui est sciences de gestion également. Donc, j'avoue qu'elles sont stigmatisées parce qu'à l'heure actuelle, ce pourquoi elles préparent directement ne permettent pas de couvrir, en tout cas, les besoins en termes d'emploi, mais ça n'exclut pas que certains métiers, comme j'ai cité ressources humaines, services sociaux, etc., sciences économiques et gestion, font appel à ces compétences qu'on a développées dans ces études précédentes. Et donc, il ne faut pas hésiter à se reconvertir parce que, bon, en fin de compte, on a tous quelque part besoin d'un travail. Après, okay. Pour être un peu plus moderne, parce que quand même, il y a le côté un peu moderne, ce qu'on peut faire, c'est que moi, je pense qu'il y a des métiers que quand on choisit, quelque part, c'est parce qu'on a un fort intérêt, voire une passion. Donc, quelque part, on doit trouver le moyen d'en parler. Donc, si c'est en lançant une chaîne, un podcast, quelque chose qui enfin une chaîne YouTube, un podcast, un blog, quelque chose qui nous permet en tout cas de vivre. Par exemple, je suis passionnée de sociologie, je peux en parler. Après, en attendant de trouver un job, ou voilà, je peux en parler, je peux montrer que je suis vraiment intéressée par le sujet. Et peut-être que c'est justement ça qui va m'ouvrir des portes. Voilà. Bon. Voilà. Donc, moi, je suis plutôt partisane de ça. Et exactement, yeah. Enfin, surtout dans le monde actuel. Pour en espérant bien sûr décrocher quelque chose. Après, si c'est pas le cas, ben, ah oui, un des bouchers que j'ai pas cité, ça peut être aussi tout ce qui est les personnes qui sont chargées d'études, que ce soit sociologie ou économie, ou même psychologie, chargées d'études dans les organisations internationales, ou bien des organismes, des ONG qui ont besoin justement de ce côté comprendre la société, comprendre l'environnement dans lequel on se trouve, histoire, géographie, voilà, qui peut s'appliquer clairement dans tout ce qui est poste chargé d'études. Donc, ça aussi, c'est une voie à explorer.
D'accord.
Super, super. Merci. Merci, Ina. Tu nous donnes beaucoup, beaucoup d'insights. Et puis c'est vraiment intéressant. Moi, j'ai une autre question. Par exemple, pour une personne, parce que je ne connais pas grand-chose en droit. Donc, pour une personne qui fait ses études en droit, par exemple, quels sont les probables débouchés? Et comment devenir magistrat?
Alors, pour devenir... Alors déjà, on va parler des débouchés de manière générale. Alors déjà, enfin, les études de droit, il y a beaucoup d'étudiants, il faut dire la vérité, qui s'inscrivent en études de droit. Après, beaucoup ne les terminent pas non plus. C'est aussi, enfin, c'est forcément dû à la complexité. D'abord, en fait, il y a, en termes de domaine et en termes de métier. Donc, on va peut-être parler déjà, pour commencer, en termes de domaine. Dans lesquels on peut atterrir, on va dire, tout ce qui est droit privé, public, droit des affaires, des contentieux, la fiscalité, bon, après on peut aller vers le droit de l'homme, etc. Et en termes de métier, on a les avocats, notaires, ça on connaît, de manière générale on les connaît, magistrats, comme tu as dit, greffiers, huissiers, officiers de police judiciaire, voilà. Et puis, on a aussi les personnes qui ont choisi des études plus courtes, comme le clerc de notaire ou les assistants juridiques. Après, ce qu'on peut faire, c'est de... On peut aussi passer les concours de la fonction publique. Si on a envie de bosser, de travailler, aux impôts, au trésor, ministère de l'Intérieur, etc. S'orienter vers les ressources humaines aussi, qui ont besoin de spécialistes du droit. Ou bien décider de continuer en doctorat. Donc ça aussi, c'est possible. Voilà. Alors, après, spécifiquement, pour être magistrat, je crois qu'il faut passer... Alors là, pour le coup, je ne suis pas sûre du tout. Donc il faudrait que moi-même, je me renseigne spécifiquement sur tout ce qui est magistrat. Mais je crois que c'est comme les notaires, il faut passer une sorte d'examen qui nous permet après d'avoir cette position, on va dire.
Ok. C'est vrai que par rapport à la magistrature, je pense que c'est assez spécifique. Il y a même eu, si je ne me trompe pas, des petites réformes récemment, mais on pourra creuser et puis bon, spécifiquement revenir dessus une prochaine fois.
Effectivement.
Et il y a aussi des auditeurs, et moi-même personnellement, je connais des personnes qui ont fait des études en commerce international. Aujourd'hui, qui se posent les questions, qui sont même en train de faire ces études-là, et qui se posent des questions sur les débouchés de cette filière.
Ok, effectivement. Alors, j'avoue que quand on dit commerce international, des fois, on ne sait pas exactement ce qu'il y a là-dedans, qu'est-ce que je vais en faire après, parce qu'il y a beaucoup de gens qui le font. Alors, j'avoue, moi j'ai fait un master en commerce national quelque part. Après, ce que j'ai décidé d'en faire ensuite n'a rien à voir avec...
Avec le commerce international.
Voilà, exactement, avec le parcours auquel il me destinait naturellement. Maintenant, si je reviens au parcours auquel il me destinait naturellement, ça allait être... Alors, il y a plusieurs voies hein, dans la même chose. Logistique, achat, supply chain, j'aurais pu faire ça, voilà, clairement. Tout ce qui est import, export, responsable de filiale, d'entreprise... Ça, c'est possible. Après, il y a quand même un métier qui est en vogue, là, c'est business developer. Donc, alors ça s'apparente quand même à ingénieur technico-commercial, hein, mais c'est en gros, je vais chercher des marchés, je gère des comptes d'entreprise, et encore en anglais, ça s'appelle account manager. Donc, je peux faire ça au niveau d'un pays, d'une zone. Des fois, on a des country managers, enfin, donc directeurs de zone ou de pays qui justement ont passif, on va dire, en commerce international. Donc là, je viens de citer un peu des choses, qui, des métiers qui s'apparentent à de la vente et un peu de marketing. Ce qu'on peut décider aussi d'en faire, c'est de travailler en tant que chef de projet, donc pour des projets à l'international, s'entend, dans des multinationales, voilà. Ou bien décider de devenir consultant dans un cabinet international. Donc on a les Big Four, on a tous les autres. Ça peut s'appliquer aussi. Ou bien on peut décider d'aller dans le tourisme et l'hôtellerie, parce que ben, c'est clairement, ça peut être clairement aussi le terrain de jeu qui va permettre d'avoir ce côté international qu'on recherchait à la base, je suppose. Donc voilà un peu quelques idées de débouchés naturels, on va dire, auxquels destine tout ce qui est master en commerce international. Après, comme j'ai dit, je pense que quand tu as fait commerce international, en vrai, toutes les fonctions, enfin la plupart des fonctions support, donc ressources humaines, alors comptabilité si on s'est un peu plus formé là-dessus, achat logistique, qu'est-ce qu'on a d'autre, enfin sont globalement ouvertes en fait. Voilà, on n'est pas fermé. Après, même si on ajoute un petit certificat à côté, une petite formation à côté, ça devrait faire l'affaire pour travailler dans les fonctions support.
D'accord.
Ok. C'est vrai que ça répond un peu à la question que j'avais sur le domaine de la finance et de la comptabilité, parce qu'il y a un auditeur aussi qui pose des questions sur les débouchés d'une personne qui a fait ses études dans la finance et de la comptabilité. Donc, je ne sais pas si tu peux rapidement revenir là-dessus, parce que bon, c'est vrai que la question précédente, tu parlais de commerce international, mais tu peux aborder un peu le volet finance, comptabilité.
Effectivement, c'est-à-dire que je peux choisir un master commerce international, mais je peux aussi en choisir un en finance ou en comptabilité. Enfin voilà, c'est ça aussi le LMD, c'est que je peux décider de faire un master en commerce international et me dire « Ah mais non, je vais aller encore plus loin dans la finance. » Donc là, je vais peut-être plus me destiner, on va dire, à des métiers. Alors, je vais séparer en deux catégories, deux grandes catégories. Donc, on a tout ce qui est comptabilité, comme on a dit. Donc là, on va retrouver, alors ça peut être ce qu'on appelle le DCG ou le DSCG, qui sont des diplômes, en fait, qu'ont les professionnels de la comptabilité, en général. En tout cas, dans le monde francophone de l'éducation, c'est des diplômes reconnus. Et c'est Bac plus 3 et Bac plus 5. C'est l'équivalent de licence ou master, mais c'est juste que ça a des noms spécifiques. Voilà.
Et sur la place ivoirienne, où on peut faire ce genre de diplôme-là?
Alors, je ne sais pas si j'ai le droit de citer le nom d'école.
Ah oui, oui, Anne, vas-y.
Ah, ok. Donc, par exemple, on a l'IN, en France, ça s'appelle l'INSEC, et ici, l'équivalent, le nom en français m'échappe. Peut-être que vous-même, vous le connaissez, en fait. Et je sais que, justement, ils ont plein de diplômés. En fait, on peut le faire à l'université, on peut le faire en école de mais il faudrait que je regarde des noms spécifiques, parce que là...
Ah, ok.
De tête,
parce que lorsque tu as dit tu as parlé du diplôme, ça me fait un peu penser au DPCF. Je sais pas si ça existe toujours, mais je crois que 10 ans, 15 ans en arrière, ça existait à l'université.
Ok, alors moi, malheureusement, j'ai pas ce référentiel, parce que j'avoue, j'ai les nouveaux référentiels, si on veut. J'ai préféré directement aller vers les nouveaux, donc c'est DSCG, DSCG, mais j'ai pas le DUP comme tu as dit,
DUPCF.
Oui, mais du coup, c'est quelque chose que j'en ai entendu parler aussi. Mais bon, ça doit faire longtemps. Alors, diplôme universitaire en comptabilité et finance. OK. C'est le système d'avant, en fait. C'est comme les DUG. C'est ce qu'on disait avant, le DUG
Exactement.
au lieu du BTS. D'accord. Bon, ça, j'avoue. Ça, c'est le système d'avant.
OK.
Alors, du coup, si je, enfin, du coup, je continue sur le DCG, le DSCG. Il y a tout ce qui est master contrôle comptabilité audit. Donc, on entend dans le titre hein, qu'on va retrouver des auditeurs externes, internes, contrôleurs de gestion, commissaires aux comptes. On continue un peu plus loin, on devient expert comptable. Après 8 ans d'études, par contre, on peut faire de la consolidation, de la conformité. Voilà. Donc, ça, c'est plus le côté comptable, on va dire. Après, si je vais dans la finance pure, si je peux dire ça comme ça, on aura tout ce qui est métier d'analyse financier, la fusion-acquisition qui s'appelait beaucoup aux jeunes, les auditeurs, enfin, auditeurs financiers, peut-être plus dans le conseil, dans l'externe. On a les consultants, ben, du coup, c'est à peu près la même chose que le précédent. Gestionnaire de patrimoine, analyste crédit, des trésoriers, voilà. Donc, voilà un peu les débouchés. auxquels peuvent destiner les études en finance et en comptabilité. Après, ah oui, peut-être le dernier, ce serait bon, le trading, parce que je sais qu'en ce moment, c'est à la mode. Donc, voilà, pourquoi pas s'orienter vers ça.
Je pense que c'est le moment de prendre le cahier, de prendre note. Et il y a un autre auditeur qui, bon, lui, il a posé vraiment la question inversement. Et j'aime bien la manière dont il pose la question. Lui, il demande directement quelles sont les filières qui permettent de s'insérer rapidement dans le tissu professionnel.
Ouais.
Ok.
J'aime ce genre d'auditeurs-là. Ils sont très directs.
Après, moi aussi j'aime ça, mais espérons que ce qu'il va choisir va quand même arriver à lui plaire. Parce que le souci avec ça, c'est que c'est bien, hein? C'est une très bonne question. Maintenant, que ce soit le premier paramètre pour décider de son orientation, à un moment, ça peut être problématique, quoi. 10 ans plus tard, on se dit, ah, mais j'ai plus envie de faire ça. Donc, ça dépend. Mais bon, pour répondre à la question, voilà, parce que je vais pas rentrer dans le côté trop psychologique, pour répondre à la question, en fait, en lisant et bien sûr en fonction des offres aussi auxquelles moi je suis, enfin, dont j'ai la visibilité, je dirais que, alors, de prime abord, ça, c'est un secteur que les jeunes fuient souvent, mais qui génère beaucoup d'argent. c'est tout ce qui est agro-business, agriculture. Ça, qu'on se le dise, être ingénieur agronome, conseiller agricole ou encore exploitant agricole, vous êtes. Enfin, avoir votre propre exploitation, donc, ou travailler dans une exploitation, vous êtes recherché en ce moment. Après, c'est est-ce que j'ai envie d'y aller? C'est ça la question qu'on doit se poser. Mais clairement, en Afrique, il y a un terrain de jeu, je pense que tout le monde est d'accord sur ça. Voilà. Après, ensuite, il y a tout ce qui est logistique. Donc, on recherche en Côte d'Ivoire en ce moment plusieurs acheteurs, logisticiens, gestionnaire de stock, mais aussi, en fait, pour ceux qui n'ont pas envie de faire ou n'ont pas la possibilité de faire des études trop longues, faut aussi compter tout ce qui est cariste, manutentionnaire, conducteur de machines, donc des gens qui vraiment maîtrisent les outils, consignateurs, agents de. Les consignataires, c'est-à-dire les agents maritimes à quai. Donc, ça, il y a des centres de formation localement. Au niveau des ports ou autres, qui forment pour ces métiers spécifiques. Donc, il faut savoir que c'est quand même porté par tout ce qui est industrie. Et puis, bon, le fait qu'on commence à produire nos propres matières premières. Donc, ça, c'est super et il faut surfer là-dessus, en fait. Après, un secteur qui, bon, je pense que ça, tout le monde, en tout cas, rêve quelque part de ce secteur, ou en tout cas, déjà, c'est déjà imaginer en faire. C'est tout ce qui est attrait à l'informatique. Donc, que ce soit, alors, développeur web, administrateur système réseau, community manager, ou bien même dans les services bancaires, mobiles, et donc un peu associé à la finance, on a pas mal de profils informatiques qui sont recherchés. Ça, c'est toujours le cas. Et donc, si c'est vraiment quelque chose pour lequel vous avez une fibre, allez-y. Ah oui, j'ai oublié aussi data scientist, data analyst. Ça, c'est des métiers enfin, clairement, là, en fait, vous avez du pouvoir, on va dire, sur le marché du travail. Ah oui, et cybersécurité. Ça, c'est une dernière que je vais donner. Voilà. Ça, c'est la chasse en ce moment. Donc, après, je donne des tendances, hein. Maintenant, ce qu'il faut faire aussi, c'est justement se tenir informé. Parce qu'au sein de. des secteurs que je viens de donner, dans quelques années, il y aura d'autres métiers qui vont émerger. Donc, ça, c'est vraiment à la personne même de s'informer. Alors, là, on a toujours un besoin, c'est la santé. Je veux dire, la santé, il y a une pénurie de médecins dans la plupart des pays francophones de la place. Donc, médecins, pharmaciens, etc., on a tout le temps besoin de vous ou d'eux. Donc, il ne faut pas hésiter à y aller. Je dirais aussi, bon, là, c'est plutôt parce que moi, j'ai cette vue et cette vision-là, le côté ressources humaines. Les professionnels, en tout cas, m'ont remonté qu'ils n'arrivaient pas forcément à trouver la perle rare, voilà. Et que localement, il n'y avait pas forcément de bonne formation ressources humaines, ou en tout cas pas à la hauteur de ce qu'ils espéraient. On recherchera même d'ailleurs des professionnels en ressources humaines. Donc, allez-y. Alors là, c'est vrai, j'ai cité beaucoup de choses. Hein. Mais c'est pour dire que justement, il y a plein de spécialités qui correspondent à son profil aussi. Et puis, on avait parlé des métiers techniques, et, c'est-à-dire où on peut s'insérer plus ou moins rapidement après le bac, donc technique, mais aussi l'ingénierie. En ce moment, on recherche par exemple des gens qui sont spécialisés dans tout ce qui est domaine d'électricité, les frigoristes, les chaînes de froid, les techniciens aussi biomédicaux, et puis tout ce qui est maintenance des appareils, parce que voilà, enfin, faut vraiment des spécialistes pour ça, ils peuvent pas faire n'importe quoi. Donc voilà un peu un tour d'horizon.
Et le domaine du BTP, parce que là on voit qu'il y a beaucoup de chantiers, des routes, des bâtiments. Des hôtels, il y a plein de chantiers. Est-ce que c'est aussi un secteur où on peut vite s'insérer ou bien il est un peu plus fermé?
Effectivement, c'est un bon point. Je ne l'ai pas mis parce que du coup, là, ça faisait déjà beaucoup de choses. parce que sinon, en plus, j'aurais ajouté l'hôtellerie, du coup, qui répond un peu à ce côté bâtiment qui pousse un peu partout dans la sous-région, mais aussi la grande distribution. Parce qu'on voit bien qu'il y a des grandes chaînes de magasins qui s'implantent et qui vont chercher des chefs, des managers de rayons, des directeurs, on va dire, de magasins. Voilà. Si localement, ils en trouvent, tant mieux. Parce que du coup, ils sont obligés de faire venir des gens de l'extérieur, ce qui n'est pas top. Donc, pour rebondir sur ce que tu as dit, effectivement, les ingénieurs, tout ce qui est génie civil. Et aussi, là, on revient aux personnes qui n'ont pas envie de faire des études, qui n'ont pas la possibilité de faire des études super longues. Il y a tout ce qui est brevet de technicien, BEP, spécialiste de bâtiments, travaux publics. Donc, maçon, plombier, dans la peinture, bâtiments, enfin, ce qu'on avait cité un peu avant. Donc, tu as raison, c'était un bon point. Surtout au Sénégal, par exemple, je sais qu'il y a eu la construction de la ville d'Yamna Dio. Enfin, ça, c'est un exemple au Sénégal. Oui. Et voilà. Et clairement, pour ce genre de réalisation, et même à Abidjan avec les ponts qu'on construit, il faut des personnes qui ont la capacité, en tout cas, de mener ces projets-là. Quoi. Donc, voilà. Effectivement, d'accord. C'est un très bon point.
C'est clair. On retourne sur une question d'un auditeur qui est aussi très cash comme le précédent. Il demande quels sont les profils de carrière les plus rentables. Est-ce qu'il faut avoir un profil super technique pour être plus rentable sur le marché, un profil commercial ou marketing, ou aussi ou un profil finance ou autre. Donc Ina, tu es notre experte aujourd'hui. Donc voilà.
Ok. Alors la question est, comme ils disent les Américains, tricky. Ça veut dire que en fonction de ta réponse, il y a d'autres qui vont être contents ou pas.
Exactement.
Alors en fait. Moi, je dirais, d'après les profils que la personne a cités, hein, enfin, technique, commercial, marketing, finance, ou autre, c'est peut-être social ou d'autres choses comme ça. alors, il faut se dire que la chose, c'est que les métiers, c'est un peu aussi le reflet de la société. Donc, qu'on se le dise, notre société valorise tout ce qui a trait à un peu de côté scientifique. Voilà. C'est dommage, je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que moi, je valorise beaucoup les personnes qui sont dans le littéraire ou même la créativité, etc. Mais bon, on est où on est. Et du coup, ben, quand on regarde les grilles de salaire, en général, les profils finance et technique vont quand même pouvoir prétendre à plus, en tout cas en tant que débutant. Parce qu'après, chacun construit sa carrière. Parce que si tu deviens directeur commercial, ben, y a des chances que tu dépasses un certain niveau. Mais de prime abord, au début, en tout cas, les profils finance et technique. Dans technique, je mets aussi informatique. Hein. Voilà, on ne va pas... Parce que quand même, il faut maîtriser la machine. Et aussi les ingénieurs électricité, électrotechnique, etc. qui, à l'embauche, vont avoir un salaire qui est plus intéressant que les commerciaux et que les profils marketing. Et, que, et le social, même, n'en parlons pas, parce que voilà, c'est ce que j'ai dit, c'est un reflet de la société. On valorise plus au début un financier ou un technicien qu'une autre, qu'un autre métier. Voilà.
Ah, ça, c'est bon à savoir, ça. Après, c'est mettre au début. Parce que
c'est si bon à savoir, compris, oui.
Mais ce n'est qu'un début, si j'ai bien compris.
Voilà. Et c'est surtout, après, qu'est-ce que soi-même on... qu'est-ce que soi-même on valorise, qu'est-ce qu'on recherche. Effectivement, l'argent, c'est important, on a tous besoin, mais est-ce que c'est ça qui va te rendre heureux à long terme? Faut voir, parce que finalement, quelqu'un qui est commercial, parce que je connais plusieurs personnes qui ont vraiment l'esprit de vente, etc. Mais eux, il peut être par exemple freelance, ou elle peut être freelance, commerciale, et avoir plusieurs clients dans son portefeuille en fait. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'elle va remporter plusieurs marchés, et donc avoir, elle ou il, pardon, remporter plusieurs marchés, et donc avec son portefeuille de clients, avoir plus d'argent que quelqu'un qui est, je dis n'importe quoi, auditeur financier dans un bureau. Donc, c'est pour ça que la question de l'orientation demande aussi de se connaître et puis de savoir où on est fort. Parce que tous ces métiers-là, tu peux les dépasser si tu as la passion de ce que tu fais, en fait. Parce que pas plus tard, il n'y a pas longtemps, on me donnait un exemple. Quelqu'un qui a fait technicien de tout ce qui est biomédical. Alors, c'est un bac plus 2, c'est pas un bac plus 18. Mais cette personne-là, apparemment, serait quasiment la seule sur son marché. Du coup, remporte plusieurs marchés, se fait des millions par intervention. Donc, c'est une manière de dire que l'auditeur, ok, il a son bac plus 5, ça lui garantit effectivement un bon salaire à la base, mais le biotechnicien passionné en bac plus 2, enfin pardon, le technicien biomédical qui, en fait, qui répare des appareils de médecine,
exactement.
Voilà, se fait plus d'argent. Donc, voilà, c'est pour ça que je reviens beaucoup à qu'est-ce que j'aime et ce dans quoi je suis douée. Parce que c'est ça qui va me permettre de faire beaucoup d'argent.
Est-ce à dire, avec l'exemple du technicien biomédical, est-ce à dire qu'il faut s'orienter dans le secteur où il y a moins de personnes?
Alors, franchement, de prime abord, si vous pouvez, oui. Si vraiment ça vous plaît, allez-y. Parce que ben, c'est quelque chose où vous avez, de base, vous avez l'avantage compétitif, en fait. Ça, je pense qu'en général, c'est le rêve. C'est comme si je fais une entreprise, c'est... Enfin, alors, s'il y a un ou deux concurrents, c'est rassurant parce que ça me montre qu'il y a déjà un marché, il y a quelque chose. Mais c'est là où il faut aller. Parce que si tout le monde, si tu y vas quand déjà tout le monde est parti, bah, tu as raté un peu le coche, quoi. Ou en tout cas, après, tu te retrouves justement à envoyer ton CV avec plusieurs personnes qui font comme toi, qui ont le même profil que toi. C'est ce vers quoi on tend beaucoup dans certains métiers, dans les métiers de la gestion, par exemple. La saturation. Exactement, voilà. Donc, si le secteur n'est pas est encore, on va dire, vierge ou inexploité, c'est le moment d'y aller. Oui. En s'assurant quand même du fait qu'il y ait des offres sur le marché. C'est-à-dire que c'est pas compliqué, en fait, il faut aller sur Internet et regarder. Et encore plus loin, si j'ai l'opportunité même de rencontrer quelqu'un qui est dans le secteur, qui peut me dire lui son ressenti, c'est encore mieux. En fait, parce que l'orientation, c'est pas que je suis assise devant mon ordinateur ou je me pose des questions. C'est aussi, si j'ai l'occasion de rencontrer quelqu'un qui fait le métier, je vais être comptable, je vais être traducteur, etc. Il faut que j'aille voir quelqu'un qui va me dire les réalités de son métier.
Non, voilà. Donc, Ina, tu n'as pas quelques métiers sous le coude là-bas en tant que RH pour nous guider? C'est-à-dire des métiers où il n'y a pas assez de personnes, où il n'y a pas saturation actuellement.
Effectivement, là, on va plus aller... Ben, c'est ce que j'avais dit un peu sur les secteurs de l'informatique. Hein. On avait parlé de tout ce qui était ingénieur cybersécurité. Ça, c'est recherché. Les développeurs web, c'est pareil. Il n'y en a pas assez, ou en tout cas, il y a une pénurie qui fait que les recruteurs se les arrachent. Tout ce qui est data analyst, scientist, c'est le cas. Après, justement, les filières dont on a parlé pour s'insérer dans le tissu professionnel rapidement, ça reste... Parce que médecine, on pense que oui, tout le monde est médecin, mais il y a une pénurie de médecins. Donc, ça veut bien dire qu'à un moment, on peut continuer à y aller. Les vannes sont ouvertes. J'ai parlé de tout ce qui était technique et ingénierie, donc électricité, les métiers du froid, les chaînes de froid, la maintenance. On recherche des personnes pour ça. et la logistique quand on est un peu plus spécialisé, comme dans les métiers qu'on avait cités. Voilà quoi, il y a les portes ouvertes. Voilà.
Merci beaucoup, Ina. Nous allons marquer une pause là et nous donner rendez-vous la semaine prochaine pour la deuxième et dernière partie de ce podcast. À bientôt. Bye bye.